Eh bien, Seigneur notre Dieu, par ce cantique, tu nous invites, nous qui sommes réunis devant toi, pour te louer et t'adorer. Mais nous avons besoin de ta grâce pour cela. Et nous te prions, Seigneur, de nous visiter, de nous inspirer, de nous donner, Seigneur, ce dont nous avons besoin pour que cela soit, te soit agréable, que tu reçoives, Seigneur, la louange d'un cœur pur, purifié par le sang de Jésus. Merci, Seigneur, de bénir ta parole. Merci de donner à chacun, Seigneur, la liberté d'esprit de te prier, de te louer et t'adorer, au nom de Jésus. Amen.
Eh bien, avant de partager le repas du Seigneur, je vous invite à ouvrir vos Bibles dans 1 Corinthiens 11. On va relire les versets 23 à 26. « Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Et devant nous s'ouvre donc une nouvelle semaine de grâce. Et encore une fois, on a ce privilège de pouvoir rentrer dans cette nouvelle semaine en replaçant devant nos yeux tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Et en partageant le repas, durant ce temps mis à part où tout s'arrête, pendant lequel on va laisser les soucis du monde, on va tourner nos regards vers le Seigneur et on va pouvoir admirer l'œuvre de salut qu'il a fait pour nous. C'est un grand privilège. Et Paul, il rappelle ces choses en Philippiens 2, et on va lire les versets 5 à 9. Philippiens 2, 5 à 9. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. » Et dans ce court passage, Paul nous présente le Seigneur dans la gloire, existant en forme de Dieu. Il nous rappelle qu'il est Dieu, il était Dieu, et qu'il jouissait de la présence du Père, il était servi par les anges. Personne ne pouvait le contraindre à quitter cette position qui était la sienne et qui lui était due. Mais on voit que dans le cœur du Fils, il n'y avait pas la moindre trace d'orgueil, juste simplement le désir de plaire au Père, puisqu'on a lu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Il n'a pas regardé cette position comme un privilège à défendre à tout prix. Et lorsque le temps fut venu de venir pour racheter les pécheurs perdus, eh bien il a renoncé à tout, au bienfait, à la joie du ciel. Et plus encore, il nous a dit, il s'est dépouillé lui-même. Or, ce texte nous parle, en tout cas me parle, nous renvoie à notre propre nature. On sait tous, en tout cas c'est mon expérience, que c'est bien difficile de renoncer à une position acquise, à une reconnaissance, à même à des oubliés matériels. C'est quelque chose qui est compliqué pour nous. Mais celui qui était Dieu, qui possédait toutes choses, il a accepté de revêtir notre humanité. Et dans Jean 13, verset 4, on a une illustration de ce qu'était la vie du Seigneur. On peut lire à partir du verset 3 dans Jean 13. Je vous lis le texte. « Jésus, qui savait que le Père avait remis toutes choses entre ses mains, qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait à Dieu, se leva de table, ôta ses vêtements et prit un linge dont il se ceignit. » Ensuite, on connaît bien ce texte et on sait quand il a revêtu ce linge qui était en fait un vêtement que mettaient les esclaves pour le service. Le Seigneur l'a fait parce que c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, c'est Matthieu 20 qui nous le dit, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Et c'est ainsi qu'il s'est rendu obéissant, on l'a lu, jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. Non seulement il a offert sa vie, ce qui est déjà quelque chose d'extraordinaire pour nous sauver, pour nous délivrer du péché, mais ça a été par le moyen de la crucifixion, une forme d'exécution qui était honteuse et puis en plus cruelle et accompagnée de nombreuses heures d'agonie. Mais le Père a approuvé la démarche du Fils. C'est pourquoi, c'était le verset 9 de Philippiens 2, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Il s'est humilié et Dieu l'a élevé. Il est devenu serviteur de tous et Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors, on est heureux de dire ce passage, mais en quoi ça nous engage ce matin ? Alors, bien sûr, nous sommes débordants de reconnaissance pour ce que le Seigneur a fait, au moins nous devrions l'être. Il nous a apporté le pardon, le salut, la vie éternelle. Mais relisons le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Et après ce que nous venons de rappeler, ben, on peut se sentir extrêmement disqualifié devant les exigences et le niveau de service du Seigneur. Et toute la parole, comme ce texte, nous montre que la vie du Seigneur était droite, sans compromis, sans hypocrisie. Vendredi, à l'étude biblique, pas étude, mais à Besançon, on a rappelé qu'il y a bien des chrétiens pour lesquels il y a la vie à l'église, le dimanche, où là on met le costume du chrétien, bien sous tout rapport, et puis il y a la vie la semaine, où on a des autres vêtements. Dans une revue chrétienne, il y avait un petit dessin humoristique, où on voit un couple, l'homme et la femme, qui reviennent du culte, ils rentrent dans leur appartement, et l'épouse regarde son mari, puis lui dit bon, « Écoute, tu peux arrêter de sourire, on n'est plus à l'église. » Bon, on comprend bien ce qu'il y a derrière, et quelquefois on peut se reconnaître. Notre vie peut être différente à l'église qu'à l'extérieur. Le Seigneur nous a montré que lui, dans sa vie, tout était en ordre, il était droit en toutes choses. Alors oui, les exigences du Seigneur peuvent nous paraître élevées, mais nous avons un modèle, et on voudrait partir avec cette exhortation cette semaine de Paul donne aux Thessaloniciens, au chapitre 4, verset 1, « Au reste, mes frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Alors puissions-nous cette semaine faire au moins un petit progrès dans la marche avec le Seigneur. On va prier. Seigneur, nous voulons te remercier parce que tu n'as pas cherché à passer à côté des souffrances qui étaient devant toi. Tu n'as pas voulu demeurer dans la gloire. Tu es venu parmi nous pour souffrir, pour nous apporter un plein salut, pour offrir ta vie. Alors Seigneur, ce matin, nous voulons ensemble te dire notre reconnaissance, te dire merci pour ce que tu as fait pour chacun. Amen.
La semaine dernière, il nous était rappelé un épisode dans Actes 8. C'est Michel qui nous a rappelé ça dimanche. Cet épisode au cours duquel le Saint-Esprit va envoyer Philippe dans le désert. Alors on va reprendre ces versets de Actes 8, versets 1 à 5, pour se remémorer un petit peu ce qui a été dit. Actes 8, versets 1 à 5. Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église. Pénétrant dans les maisons, il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et vivent les miracles qu'il faisait. Alors, en entendant ces paroles et le message, il y a deux versets qui m'ont été rappelés. C'est dans Ésaïe 55, les versets 8 et 9. Je vous les lis, mais vous les connaissez pratiquement tous par cœur. « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Alors on est tous d'accord pour confirmer ces versets. Mais dans la réalité des faits, moi je me suis aperçu que ce n'est pas toujours le cas. Imaginez-vous, à la place de Philippe, au milieu d'un réveil avec des chrétiens non seulement nés de nouveau, mais des nouveaux-nés. Ils ont besoin de Philippe. Et voilà que le Seigneur dit « va dans le désert ». Alors, il nous a été rappelé vendredi de prendre la parole comme si on ne connaissait pas la suite. « Va dans le désert », il n'y a pas d'autre précision. Nous, on connaît la suite, on sait pourquoi le Seigneur l'envoie, mais lui, rien du tout. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que j'aurais fait? Il va sans discuter. Et il y a d'autres passages comme ça, dans la parole, où c'est à n'y rien comprendre. Et on va en prendre quelques-uns. Et se mettre à la place de ceux qui les vivent. Alors, on va faire deux choses. Puisque les pensées du Seigneur ne sont pas les nôtres, et les nôtres ne sont pas les siennes, on va essayer de voir dans la parole comment réagissent les hommes, et non, nous, comment on réagit face au dessein du Seigneur. Puis après, on va voir comment, si on était à la place du Seigneur, comment on aurait fait, pour voir si ça concorde. Alors, on va déjà prendre quelques passages, enfin, déjà des exemples. Dans Exode 5, le Seigneur se révèle à Moïse et à Aaron, et il charge Moïse de délivrer le peuple des Hébreux de la captivité en Égypte. Et voilà, qu'est-ce qui se passe? Pharaon augmente la charge de travail et il leur demande le même rendement. Mettez-vous à la place des Hébreux et à la place de Moïse. Ils se posent des questions. C'est à n'y rien comprendre. On attend la délivrance qui a été promise. Non seulement rien ne change, mais tout devient pire. C'est une punition? Il y a quelque chose, un péché, qui empêche la promesse de se réaliser? Et que dire de Job? On parle souvent de son épreuve terrible qu'il est amené à supporter, permise par Dieu. Quel chemin, là encore? Là encore, quand on ne connaît pas la suite, incompréhensible. Un homme qui est défini par Dieu lui-même comme le plus juste de la terre et qui va subir la perte de ses biens, la perte de ses enfants, la perte de sa santé. Et ses amis qui vont charger de lui expliquer pourquoi. Faussement. Et son épouse qui lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Il y a de quoi perdre les pédales quand même dans une situation pareille. Et il y a quelques exemples encore, on va en prendre un, où des hommes de Dieu fidèles vont subir les pires outrages à cause de leur foi. Et on va prendre Jérémie, ce prophète qui est chargé d'annoncer le jugement de Dieu à ses compatriotes. Et ses compatriotes, au lieu d'écouter le message de la part de leur Dieu, ils vont s'acharner sur le messager, sur Jérémie, et comploter contre lui. Je vous lis dans Jérémie 11, au verset 19. Il dit « J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie, et j'ignorais les mauvais desseins qu'il méditait contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit, retranchons-le de la terre des vivants, et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Il va être frappé par Pachour, le sacrificateur, mis en prison. » Ça c'est Jérémie 20, versets 1 et 2. Puis de nouveau menacé de mort, en Jérémie 26, au verset 8. Et puis encore emprisonné par Sédécias. Et au chapitre 38, versets 3 à 6, c'est Jérémie qui prophétise. Donc Jérémie 38, versets 3 à 6. Ainsi parle l'Éternel. Cette ville sera livrée à l'armée du roi de Babylone qui la prendra. Et les chefs dirent au roi que cet homme soit mis à mort. Car il décourage les hommes de guerre qui reste dans cette ville, et tout le peuple, en leur tenant de pareils discours. Cet homme ne cherche pas le bien de ce peuple. Il ne veut que son malheur. Le roi Sédécias répondit, « Voici, il est entre vos mains, car le roi ne peut rien contre vous. » Alors ils prirent Jérémie et le jetèrent dans la citerne de Malkija, fils du roi, laquelle se trouvait dans la cour de la prison. Ils descendirent Jérémie avec des cordes. Il n'y avait point d'eau dans la citerne, mais il y avait de la boue. Et Jérémie enfonça dans la boue. Ben, à sa place, à la place de Jérémie, on comprend sa détresse. Cet homme fidèle, qui malgré l'opprobre qu'il subit, annonce sans cesse, fidèlement, le jugement de Dieu sur son peuple rebelle et l'incite à se repentir sans résultat. Combien sa détresse paraît légitime, et on va voir ce qu'il dit dans les Lamentations. Lamentations 3, on va prendre les 20 premiers versets. Et là, on va voir ce que c'est que la souffrance de Jérémie. Lamentation, chapitre 3, versets 1 à 9. Je suis l'homme qui a vu la misère sous la verge de sa fureur. Il m'a conduit, mené dans les ténèbres et non dans la lumière. Contre moi, il tourne et retourne sa main tout le jour. Il a fait dépérir ma chair, il parle de son Dieu, hein, et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré d'un mur pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. Il a fermé mon chemin avec des pierres de taille. Il a détruit mes sentiers. Il a été pour moi un ours en embuscade, un lion dans un lieu caché. Il a détourné mes voies. Il m'a déchiré. Il m'a jeté dans la désolation. Il a tendu son arc et il m'a placé comme un but pour sa flèche. Il a fait entrer dans mes reins les traits de son carquois. Je suis pour tout mon peuple un objet de raillerie, chaque jour l'objet de leur chanson. Il m'a rassasié d'amertume, il m'a enivré d'absinthe, il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Et j'ai dit ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Et il emploie les mêmes termes au chapitre 15 du livre de Jérémie. Voilà un homme, on peut dire, qui est désespéré, déchiré, abattu, raillé par ses pairs, sans aucune espérance. Rappelons qu'il était quand même frappé, mis en prison, et puis dans une citerne, menacé de mort. Tout cela à cause de sa droiture. Combien on le comprend, en voyant ce qu'il endure, en pensant à lui. Avec mes pensées. Mais en lisant ce passage, Jérémie est un prophète conduit par son Dieu. Est-ce qu'on peut dire qu'il s'appuie sur ses propres pensées ou sur celles de Dieu? Comment le Seigneur Jésus aurait réagi à sa place? Et il l'a été, bien plus. Il a subi la croix, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Ça, c'est Ésaïe 53, verset 7. Oui, il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais parce que sur la croix, il a été abandonné, parce que son Dieu ne voyait plus l'homme qui était sans tache, mais celui qui portait mon péché, ton péché. Bien, en faisant attention, dans le passage que nous venons de lire, dans les Lamentations, j'ai compté le terme « je »,« moi », qu'emploie Jérémie, « mon »,« ma », 38 fois, en 20 versets. Il parle de lui, de ce qu'il ressent, de ce qu'il pense, et ça le conduit à l'angoisse, au découragement, à la dépression, et même à la révolte. Devant ses accusateurs et ses persécuteurs, est-ce qu'il va demander grâce? Alors on va voir sa réaction. Au chapitre 17 du livre de Jérémie, au verset 18. Donc juste avant les Lamentations. Chapitre 17, verset 18. Que mes persécuteurs soient confus, et que je ne sois pas confus. Qu'ils tremblent, et que je ne tremble pas, moi. Fais venir sur eux le jour du malheur, frappe-les d'une double plaie. Voilà de la compassion. Un petit peu plus loin, au chapitre suivant, Jérémie 18, versets 20 à 23. Le mal sera-t-il rendu pour le bien? Car ils ont creusé une fosse pour m'ôter la vie. Souviens-t'en, je me suis tenu devant toi, afin de parler en leur faveur et de détourner d'eux ta colère. C'est pourquoi livre leurs enfants à la famine, précipite-les par le glaive, que leurs femmes soient privées d'enfants et deviennent veuves, et que leurs maris soient enlevés par la peste, que leurs jeunes gens soient frappés par l'épée dans le combat. Qu'on entende des cris sortir de leur maison, quand soudain tu feras fondre sur eux des bandes armées. Car ils ont creusé une fosse pour me prendre. Ils ont tendu des filets sous mes pieds. Et toi, Éternel, tu connais tous leurs complots pour me faire mourir. Ne pardonne pas leur iniquité. N'efface pas leur péché devant toi. Qu'ils soient renversés en ta présence. Agis contre eux au temps de ta colère. Il demande la colère de son Dieu, sur le peuple, sur ses ennemis, non pas à cause du péché du peuple, mais à cause de ses propres souffrances qu'on lui fait subir. Fait venir sur eux le jour du malheur, lire leurs enfants à la famine. Il n'épargne personne. À cause de son malheur, Jérémie donne des ordres à son Dieu pour qu'il punisse ses adversaires. On est très loin de la réaction du Seigneur Jésus sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. De celle d'Étienne, qui se fait lapider par ses opposants, Seigneur, ne leur impute pas ce péché. De Moïse, demandant à son Dieu de l'effacer de son livre pour sauver son peuple. Alors que dit le Seigneur à propos de nos pensées? Je vous cite le verset 21 de Colossiens 1. Et vous, nous, qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconciliés par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui, saint, irrépréhensible et sans reproche. Ennemis par nos pensées, pas seulement différents, ennemis. Tout cela parce que mes pensées, qui génèrent mes actes, sont fondées sur moi, sur mon ego. Et Jérémie n'y coupe pas, tout prophète qu'il est. D'ailleurs, je parlais avec un frère de ce que j'allais présenter. Puis mon épouse, elle me dit, mais tout ça, c'est des Jérémiades. Eh oui. Peu de gens dans le monde connaissent Jérémie le prophète, mais tout le monde sait ce que c'est que des Jérémiades. Et je vais vous rappeler la définition du Larousse, d'une Jérémiade. Plainte sans fin, lamentation persistante et importune. Mais heureusement, le Dieu de Jérémie ne va pas le laisser là. Il va l'emmener sur un autre terrain. On va le voir. Mais si nos pensées ne sont pas celles de Dieu, les siennes, celles de notre Dieu, ne sont pas les nôtres. Ce n'est pas la même chose. Mettons-nous, c'est une image à la place de notre Dieu, face à la réaction de Jérémie. Est-ce qu'il va lui faire les reproches? Est-ce qu'il va anéantir ses ennemis? Face à sa détresse, au chapitre 15 du livre de Jérémie, voilà ce que son Dieu lui dit. Les versets 19 à 21. Jérémie 15, 19, 21. Il n'y a aucun reproche. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, si tu te rattaches à moi, je te répondrai et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. S'il lui dit ça, c'est qu'il y a bien une raison. C'est à eux de revenir à toi, mais toi, ce n'est pas à toi de retourner vers eux. Je te rendrai pour ce peuple comme une forte muraille d'airain. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je serai avec toi pour te sauver et te délivrer, dit l'Éternel. Je te délivrerai de la main des méchants, je te sauverai de la main des violents. Il l'encourage à s'appuyer non pas sur les circonstances, sur ce qu'il voit ou ce qu'il endure, qu'il ne regarde plus à l'épreuve terrible qu'il endure, mais à celui qui l'a permise, à son Dieu. Et lorsque de nouveau Jérémie fait état de sa souffrance dans les lamentations, c'est lui-même qui va détourner les regards vers son Dieu. Lamentations 3, verset 21. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. Là, il change de position. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, l'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Sa position change de tout au tout. Il regarde ailleurs. Mais c'est une position volontaire. Comme ça nous a été rappelé vendredi, il prend position. Il est dans la détresse, mais il regarde à son Dieu qui a tout permis et qui va sortir de là. Espère en l'Éternel, que ta fidélité est grande. L'atmosphère change complètement. On a exactement la même pensée dans le psaume 73, où Asaph se lamente, et puis dans le psaume 73, on va prendre ces versets du verset 21 à 28 du psaume 73, où le psalmiste se plaint de sa situation et puis qu'il voit le parcours des méchants, il a l'impression qu'ils sont bénis. Et au verset 21 jusqu'au verset 28, voilà ce qu'il dit. « Lorsque mon cœur s'aigrissait, » voilà quelqu'un qui est dans le repos et la joie, « et que je me sentais percé dans les entrailles, j'étais stupide et sans intelligence. J'étais à ton égard comme les bêtes. Mes pensées n'étaient pas les tiennes. Cependant, je suis toujours avec toi. Tu m'as saisi la main droite. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. Quel autre ai-je au ciel que toi ? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Ma chair et mon cœur peuvent se consumer. Dieu sera toujours le rocher de mon cœur et mon partage. Car voici, ceux qui s'éloignent de toi périssent. Tu anéantis tous ceux qui te sont infidèles. Pour moi, m'approcher de Dieu, c'est mon bien. Je place mon refuge dans le Seigneur, l'Éternel, afin de raconter toutes tes œuvres. » En fait, lorsque nous faisons cette comparaison entre nos pensées et celles de notre Dieu, après ce que nous venons de lire, on peut s'apercevoir qu'en faisant confiance à nos propres pensées, en s'appuyant sur elles, lorsque nous traversons une épreuve, elles nous conduisent toujours à l'incompréhension, à la détresse, à la révolte. Et souvent, on dit comme Jérémie, il l'a dit, « J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à ma prière. J'attends depuis tellement longtemps une réponse de ta part, Seigneur. Et toujours pas de réponse. Tu me dis de ne pas me décourager, de te faire confiance, mais les faits sont là. Les Hébreux, on leur dit qu'ils vont être sauvés et on leur demande plus de travail. Y a-t-il quelque chose d'impossible à Dieu ? Ses pensées ne sont pas nos pensées. Notre Dieu veut nous envoyer sur un autre terrain, sur celui de ses pensées et non celui des nôtres. Comment c'est possible puisqu'il y a un abîme entre ces deux mondes ? Alors voyons maintenant les choses de son point de vue, de notre Dieu, en prenant quelques exemples. On a lu dans Actes 8, je vous relis les trois premiers versets, « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Les hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit. Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. » Dans Actes 9, il nous est dit que ce Saul respire la menace et le meurtre. Voilà les termes d'une violence inouïe. Et ils sont suivis d'actes. Il a approuvé le meurtre d'Étienne. Si le Seigneur me donne toute liberté pour savoir que faire d'un tel homme, la chose est simple. Eh bien, il faut le supprimer. Cet homme est un outil manifeste de Satan. Il doit être mis hors d'état de nuire. C'est aussi simple que ça. Il faut être logique. Mais là encore, les pensées de Dieu ne sont pas mes pensées. Totalement différentes des nôtres, des miennes. Comment notre Dieu a-t-il pu penser qu'il allait pouvoir utiliser un tel homme que ce Saul de Tarse, un fanatique, si ses pensées avaient été comme les miennes? Sauf que c'est ma pensée et que notre Dieu pense autrement. Voyons Acte 9, je vous lis ce que le Seigneur dit à Ananias, les versets 15 et 16. « Mais le Seigneur lui dit, donc à Ananias, « Va, car cet homme, ce meurtrier, ce fanatique, est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël, et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment ce Saul, qui persécute les chrétiens, est devenu Paul, celui qui dit dans Romains 9, au verset 3, « Je voudrais être moi-même anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair. » Tout a été bouleversé, chamboulé, lorsque Saul de Tarse a rencontré Jésus. Saul a reconnu que ses pensées n'étaient pas celles de Dieu. Elles étaient fausses, au point de persécuter Jésus lui-même. « Je suis Jésus que tu persécutes. » Tout a changé parce qu'il a pris position en disant « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et ça a été le principe de sa vie. « Christ est ma vie. Ce n'est plus moi qui vis. » C'est Christ qui vit en moi. C'est l'Esprit du Dieu vivant qui a pris la place de celui de l'homme charnel. Et Paul ne s'est pas plaint de ses persécutions, de ses emprisonnements, des coups qu'il a reçus. Il n'y a pas eu de jérémiade. Acte 14, versets 19 et 20. On lit souvent ça, mais c'est quelque chose d'incroyable, ce qu'il nous est dit. Acte 14, versets 19 et 20. Alors survinrent d'Antioche et d'Icône des Juifs qui gagnèrent la foule et qui, après avoir lapidé Paul, le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais ça ne se finit pas là. Mais les disciples l'ayant entouré, il se leva et entra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbe avec Barnabas. Vous imaginez, il est lapidé, laissé pour mort, et le lendemain, il reprend sa route. C'est pas un miracle, ça? Et qu'est-ce qu'il dit? Oh Seigneur, détruis-les, c'est rien du tout. Rien du tout, il ne se plaint pas. Tout cela n'a été possible parce que notre Dieu a trouvé un homme différent qui a accepté de prendre ma nature, hormis le péché, mais animé d'un autre esprit, d'un esprit qui lui a fait dire dans Jean 6, 38, « Je suis venu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Cet esprit qui l'a amené à la croix, Jésus, et parce qu'il a tout accompli parfaitement, aujourd'hui encore, c'est possible de rétablir ce lien, d'avoir les pensées de notre Dieu. Philippiens 2, 5, ça nous a été rappelé tout à l'heure, « Ayez en vous les sentiments, la pensée, dit Darby, qui était en Jésus-Christ. » Lorsque Samuel a envoyé oindre un roi chez les fils d'Isaïe, le prophète Samuel, en voyant Eliab, le fils aîné, se dit certainement « Loin de l'Éternel est ici devant lui. » La réponse de Dieu a été différente. 1 Samuel 16, 17, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Voilà la motivation du Seigneur. Lorsqu'il nous dit que ses pensées et ses voix ne sont pas les nôtres, elles ne sont pas différentes, elles sont opposées. On va lire dans quel contexte le Seigneur nous rappelle ses paroles, que ses pensées ne sont pas nos pensées. Et on va revenir dans Ésaïe 55, et on va reprendre le début du chapitre, les 7 premiers versets, avant les versets 8 et 9 que nous avons lus. On va voir les motivations de notre Dieu. Ésaïe 55, versets 1 à 7. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, troisième fois, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle, pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel, ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le pendant qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie, et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui, à notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Un Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. On est loin des propos du prophète Jérémie. Et ce Dieu, parfois, permet des circonstances que nous ne comprenons pas. Mais c'est ce même Dieu dont il nous est dit, lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Ça, c'est Romains 8, 32. Là encore, on réalise que les pensées de notre Dieu ne sont pas mes pensées. À la place du Père, est-ce que j'aurais permis que mon fils bien-aimé, en qui j'aurais mis toute mon affection, naisse dans une étable plus pauvre que les plus pauvres, pour sauver ceux qui n'ont pas daigné le recevoir. Ésaïe 53, 10 nous dit « Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. » Oh non pas que ça faisait plaisir au Père de voir son Fils sur la croix, ne pouvoir lui répondre parce qu'il portait mon péché. Non, ce qui lui a plu, c'est que le Fils ait accepté ce plan incompréhensible, de vouloir mourir pour des gens qui le détestaient, qui avaient le désir de le faire mourir. Et il l'a fait. Et le Père, probablement, ça c'est sûr, a dû avoir le cœur déchiré de voir son Fils sur la croix. Mais il l'a fait pourquoi ? Parce qu'il nous aime d'un amour éternel. Seigneur Jésus a accepté un tel chemin pour nous sauver. Dieu ne cesse de chercher des cœurs repentants, quel que soit leur état, car il ne se lasse pas de pardonner. Son amour est au-dessus de tout, au-dessus des circonstances, si mauvaises soient-elles. Il y a un passage qui m'a beaucoup parlé dans la parole, je le rappelle comme ça, mais c'est dans 2 Chroniques, au chapitre 33. Il nous est parlé de Ménécée, c'est le fils d'Ézéchias, un homme apostat, un roi apostat, qui a fait, mais alors, des choses effroyables. Il a remis toutes les idoles partout, il en a même mis dans la maison d'Éternel. Il a passé son fils par le feu, il a invoqué, il a fait de la magie, il a entraîné le peuple, quelque chose d'épouvantable. Et dans 2 Chroniques 33, au verset 10 à 13, je vous le lis, « L'Éternel parla à Manassé et à son peuple, et ils n'y firent point attention. Alors l'Éternel fit venir contre eux les chefs de l'armée du roi d'Assyrie qui saisirent Manassé et le mirent dans les fers. Ils le lièrent avec des chaînes d'airain et le menèrent à Babylone. » Si on ne connaît pas la suite, on va dire quoi ? Ben, c'est bien fait pour lui. Il a ce qu'il mérite. Mais ce sont mes pensées. Puisque qu'est-ce qu'il nous a dit un petit peu plus loin ? Lorsqu'il fut dans la détresse, donc Manassé, il implora l'Éternel, son Dieu, et il s'humilia profondément devant le Dieu de ses pères. Il lui adressa ses prières, et l'Éternel, se laissant fléchir, exauça ses supplications et le ramena à Jérusalem dans son royaume. Et Manassé reconnut que l'Éternel est Dieu. Le désir de notre Dieu n'est ni de punir, ni de se venger, mais de sauver, quel que soit l'état. Demandez au brigand sur la croix, qui quelque temps avant, il insultait le Seigneur Jésus, mais le Seigneur Jésus a pu lui dire devant sa repentance, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, il nous est dit aussi dans Luc 15, 7, « Il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. » Alors que dire, après ces exemples que nous avons rappelés, condamner comme Jérémie ou pardonner ? Y a-t-il un homme qui se puisse faire cela ? Un seul, Jésus, le Fils de l'homme. Et s'il vit en moi, ce qui nous a été rappelé, cette exhortation, cet ordre, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, si je suis d'accord avec ce principe, si je le mets en pratique, alors la boucle est bouclée, l'unité, la communion est rétablie. Il y a une question que Paul a posée aux Galates, il leur a dit, où est l'expression de votre bonheur ? Ils n'étaient pas heureux, parce qu'ils mélangeaient tout. Ils mettaient des principes qui n'étaient pas de Dieu, parce qu'ils mettaient leurs pensées. Alors, on a un objectif pour cette semaine, c'est de retrouver cette communion, puis surtout, ne pas faire confiance à nos pensées, parce qu'elles nous emmènent loin de lui, mais faire confiance à ce qu'il nous dit, quelles que soient les circonstances. Il nous dit « Soyez toujours joyeux ». C'est Paul qui dit ça, parce qu'il l'était, dans les circonstances qui n'étaient pas toujours faciles. Mais c'est possible, en prenant appui sur notre Dieu, en ayant ses pensées, en lui faisant confiance sur tout, quel que soit l'état dans lequel nous sommes, quelles que soient les circonstances que nous traversons, si incompréhensibles qu'elles soient. Faisons-lui confiance. Le Seigneur nous dit, pour terminer, je termine par ce verset, Ésaïe 43, verset 4, « C'est à toi qui parle, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime, je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. » Il a donné un homme à sa place, son propre fils. Alors, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui ?
Seigneur, nous te remercions pour l'enseignement que nous avons reçu de ta part. Merci Seigneur, parce que tu nous as rappelé que nous devons cesser nos murmures, nos jérémiades, nos condamnations, et te faire pleinement confiance, avec amour et avec joie. Seigneur, place en nous tes pensées qui ne sont pas les nôtres. Amen.